un podcast France Culture.
Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune. Je m'étonne qu'il ose se montrer. Voilà le genre de punchline que l'on trouve dans les caractères de Jean de la Bruyère. En cette deuxième moitié du XVIIe siècle, l'ascension de la bourgeoisie bouscule l'aristocratie. La Bruyère est lui-même un transfuge de classe. Mais en bon moraliste, il entreprend de dénoncer les vices de ses contemporains, leur hypocrisie, leur avarice, leur vanité, en particulier quand ces derniers s'échinent à imiter les puissants. Nous allons nous glisser dans la peau de Jean de la Bruyère en compagnie de Laurence Croque, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse à l'IDHES. Également avec nous en duplex de Strasbourg, Béatrice Guillon, professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Strasbourg. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Tom Umdenstock, Laurence Genepin, Léopold Thiévin et Inès Gender.
Pour être roi, il suffit d'être le fils de Louis XIII et de naître le premier. Mon frère aîné est roi, mais mon frère est moins futé que moi. Si je le dis, je suis déculotté et fouetté, c'est le roi. Un roi a toutes les qualités. Mon frère a toutes les qualités. Il est secret, prétentieux et sournois. Il méprise la terre entière. Il est fin. Avec moi, jamais vulgaire. Il est parfait, c'est le roi.
Bonjour Béatrice Guillon et Laurence Croque.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans cet extrait du film de Roger Planchon de 1993, Louis enfant roi. C'est Philippe d'Orléans, le frère cadet du roi, qui parle. Louis XIV est encore un enfant lorsque Jean de la Bruyère voit le jour en 1645. La Bruyère qui grandit dans une famille bourgeoise à Paris, Béatrice Guillon.
Oui, une famille de robe, famille suffisamment riche pour lui permettre de faire des études de droit. Famille de robe traditionnelle.
Famille de robe traditionnelle, il est en effet d'ailleurs licencié en droit à 20 ans, mais il plaide assez peu, je crois. Pourquoi cela ?
Il achète un office, en fait, et c'est assez courant au XVIIe siècle. Il dénoncera dans ses caractères la vénalité des offices. Il achète un office de trésorier dans la généralité de Caen, et en fait, il se rend à Caen une seule fois pour signer l'acte.
Et alors, au départ...
Il vit retiré à Paris.
Oui, et il est assez pauvre hein, dans ses années de jeunesse. Il faut attendre l'arrivée providentielle d'un héritage pour qu'il soit anobli. Comment est-il anobli, Béatrice Guillon ?
En fait, c'est l'héritage qui lui permet d'acheter la charge de trésorier. Et la charge lui confère le titre d'écuyer. Et donc, c'est l'argent, hein, c'est l'héritage qui lui permet d'acheter la charge et d'entrer dans la petite noblesse.
Qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille, de ses origines bourgeoises, Laurence Croque ?
En fait, son père est contrôleur des rentes, c'est-à-dire que c'est un tout petit financier. Et donc, grâce à l'héritage familial, le fils peut acquérir une charge de finance plus prestigieuse, trésorier de France. C'est une charge qui peut être un tremplin vers la grande finance qui, elle, permet... Parfois de se projeter carrément dans la moyenne noblesse.
Et alors justement, c'est cette charge de trésorier général qui lui permet de devenir précepteur du jeune duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé, cousin du roi, et de mademoiselle de Nantes, fille naturelle de Louis XIV, Laurence Croque.
Je ne suis pas sûre que ça soit cette charge. Je dirais peut-être qu'il est devenu précepteur malgré cette charge. Mmh. Parce que la Bruyère ne s'est pas mariée. Comme beaucoup de précepteurs, il a presque un profil de clerc, de membre du clergé, alors qu'il est resté évidemment laïque. Mais peut-être que cette charge lui a donné un certain prestige, lui a donné accès à des réseaux aussi, qui lui ont permis d'être recommandé auprès des princes du sang.
Mais c'est en tout cas un tournant dans sa carrière lorsqu'il devient ainsi précepteur de la fille de Louis XIV, Béatrice Guillon, parce qu'il va pouvoir évoluer à la cour du roi.
Alors, on dit en général que c'est la recommandation de Bossuet, hein, qui était le précepteur du grand dauphin, le fils de Louis XIV. On dit que c'est la recommandation de Bossuet qui lui a valu d'entrer dans la maison des Condés. Et il va évoluer, mais tous les témoignages disent qu'il est très très peu à l'aise. Il vit surtout à Chantilly. Et après, là, il se défera de sa charge de trésorier en 1686. Et, c'est aussi l'année où se termine son préceptorat. Et il entre comme gentilhomme dans la maison du duc de Bourbon. Tous les témoignages disent qu'il était mal à l'aise, assez timide, assez gauche en société. Mais il a vu effectivement les coulisses de la cour, il a vu les grands de près.
Mal à l'aise en société, et pourtant, effectivement, il a ce talent d'observer ainsi les vices, les défauts de ses contemporains, puisqu'il se lance dans l'écriture des caractères dans les années 1680, lorsqu'il découvre en effet les vices de la cour, Béatrice Guillon.
Oui, on pense même qu'il a commencé un petit peu plus tôt. Certains disent que l'écriture des caractères aurait commencé dans les années 70. C'est l'œuvre d'une vie. Entre la première édition, 1688, et la dernière, l'œuvre a doublé de volume.
Alors, c'est l'œuvre d'une vie, oui. Expliquez-nous peut-être de qui est-ce qui l'a inspiré, ce philosophe grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, Théophraste, qui est assez méconnu, mais qui va être en réalité mis en lumière ainsi par La Bruyère.
Oui, alors le choix de Théophraste, hein, c'est vraiment le choix d'une écriture morale, mais une écriture qui n'est pas celle du philosophe. Et La Bruyère le dit d'ailleurs dans sa préface. Donc c'est le fait de s'intéresser aux mœurs, hein, c'est l'étymologie de morale, hein, mores, les mœurs. C'est l'intérêt pour les mœurs, pour avec la conviction que la nature humaine est immuable. Mais c'est aussi une actualisation, parce que le sous-titre, c'est les caractères ou les mœurs de ce temps. Ça peut être une caution aussi de se parer, de s'abriter derrière un ancien. C'est dire aussi que La Bruyère se range dans le camp des anciens, on en reparlera certainement dans l'émission. Valeurs primitivistes contre les modernes qui font l'éloge de la civilisation et de ses commodités, dont le luxe.
Et alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce terme de caractère, Béatrice Guillon ?
Alors, le caractère, c'est ce qui singularise quelqu'un. Les caractères de Théophraste, qu'il traduit, c'est des types, hein, c'est l'avaricieux, le gourmand, l'avare. Donc, le caractère, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui donne une personnalité. La Bruyère, alors il y a Théophraste, mais La Bruyère vient aussi après, vous en parliez hier, il vient après les Pensées de Pascal, publiées en 1670, et après les Maximes de La Rochefoucauld, première édition en 1665. Dans sa préface, il dit bien qu'il a osé s'aventurer dans l'écriture morale après ces deux livres qui sont dans toutes les mains, et il dit qu'il va faire quelque chose de tout à fait différent, ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a des réécriture et de Pascal et de La Rochefoucauld, mais il profite aussi d'une vogue de l'écrit moral dans ces années-là, et d'une vogue de l'écrit moral qui n'est pas une forme savante. Les caractères, vous pouvez le lire de la première à la dernière page en suivant l'ordre des chapitres et au sein de chaque chapitre les numéros, mais vous pouvez aussi ouvrir le livre au milieu et lire chaque caractère, chaque fragment de façon isolée.
Et c'est une entreprise qui est couronnée de succès. Les caractères tout de suite séduisent les contemporains de La Bruyère.
Oui, comme le prouve le nombre de rééditions.
Un succès qui nous interroge et qui est extrêmement intéressant, puisque il faut peut-être rappeler ce contexte social, intellectuel dans lequel évolue La Bruyère, puisqu'il fait partie d'un groupe, le Petit Concile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, Béatrice Guillon ?
Oui, c'est un groupe qui s'est formé autour de Bossuet. Donc, on pense que c'est autour de 1673. Bossuet est précepteur du Dauphin. Et Bossuet, qui est une des gloires montantes, hein, de l'Église de France, Bossuet voudrait travailler à une entreprise d'exégèse biblique, de commentaires de la Bible, qu'il ne peut évidemment pas mener seul. Et il réunit autour de lui un groupe d'ecclésiastiques, mais pas seulement des ecclésiastiques, il y a aussi des laïcs. Alors, on parle parfois de deux groupes, il y a le Petit Concile et puis ce qu'on appelle l'allée des philosophes, parce que ce qui fait écho à promenade savante qui tiendrait à Versailles. On a un témoignage de Fontenelle qui dit « La cour rassemblait alors un grand nombre de gens d'esprit. Monsieur Racine, Despréaux, La Bruyère, Monsieur Demeaux était à leur tête. » Bon, en fait, ces deux groupes, le Petit Concile et les philosophes, se mélangent et ils partagent un certain nombre de préoccupations religieuses. De façon un petit peu anachronique, mais je trouve que l'anachronisme est parlant, on pourrait parler d'un catholicisme social. C'est-à-dire qu'ils ont un souci du bien social, des pauvres, et donc de l'organisation de la société.
Et oui, Bossuet dénonce dans ses sermons la cupidité des riches, tandis que le peuple se meurt, écoutez. Représentez-vous, chrétiens, une populace furieuse qui demande arrogamment, toute prête à arracher si on la refuse. Ainsi, dans l'âme de ce mauvais riche et de ses cruels imitateurs, où la raison a perdu l'empire, où les lois n'ont plus de vigueur, l'ambition, l'avarice, la délicatesse, toutes les autres passions, troupes mutines et emportées, font retentir de toutes parts un cri séditieux où l'on n'entend que ces mots. Apporte, apporte. Apporte toujours de l'aliment à l'avarice, apporte une somptuosité plus raffinée à ce luxe curieux et délicat, apporte des plaisirs plus exquis à cet appétit dégoûté par son abondance. Parmi les cris furieux de ces pauvres impudents et insatiables, se peut-il faire que vous entendiez la voix languissante des pauvres qui tremblent devant vous, qui, accoutumés à surmonter leur pauvreté par leur travail et par leur sueur, se laissent mourir de faim plutôt que de découvrir leur misère ? Oui, messieurs, ils meurent de faim dans vos terres, dans vos châteaux, dans les villes, dans les campagnes, à la porte et aux environs de vos hôtels. Nul ne court à leur aide. Hélas, ils ne vous demandent que le superflu, quelques miettes de votre table, quelques restes de votre grande chair. Mais ces pauvres que vous nourrissez trop bien au-dedans épuisent tout votre fond. La profusion, c'est leur besoin. Non seulement le superflu, mais l'excès même leur est nécessaire. Et il n'y a plus aucune espérance pour les pauvres de Jésus-Christ si vous n'apaisez ce tumulte et cette sédition intérieure. Laurence Croque, que vous inspire ce sermon de Bossuet ?
C'est un sermon qui oppose le péché de l'avarice, qui est celui, entre autres, des financiers, et l'esprit de charité qui devrait animer les puissants et les riches. Esprit de charité qui serait désormais l'apanage en fait, de l'aristocratie et de la vraie et de la vieille noblesse. Alors que les financiers, uniquement soucieux d'accumuler...
Qui sont-ils, justement, ces financiers que vous évoquez et qui sont touchés par le péché d'avarice ?
Les financiers, ce sont des hommes qui se chargent de prélever les impôts pour le roi. Alors, parfois, ils sont propriétaires d'un grand office, comme trésorier ou bien receveur général des finances d'une généralité. Parfois, ce sont des fermiers généraux, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils apportent au roi une somme donnée et en échange de cette somme qui permet au roi d'avoir de l'argent frais à utiliser tout de suite en période de guerre, eh bien, ils se chargent de la perception d'impôts, surtout souvent d'impôts indirects, d'impôts nouveaux. Et évidemment, pour se rembourser de la somme qu'ils ont avancée au roi, ils ont tendance à commettre des exactions et à aggraver en fait la pression fiscale sur les pauvres, sur les paysans.
Béatrice Guillon.
Oui, je voulais juste indiquer que le texte qui a été lu, le sermon sur le mauvais riche, c'est un sermon qui a été prononcé devant la cour. En 1662, Bossuet a été appelé par la reine-mère, qui était un peu inquiète des débordements de la jeune cour. Et donc, c'est un sermon qui a été prononcé devant la cour. On ne sait pas si le roi a assisté au sermon ce jour-là, mais en tout cas, devant les courtisans, devant l'aristocratie. Voilà, enfin, le contexte me semblait important à...
Vous faites bien de le préciser, absolument. Et est-ce qu'on peut dire que la pauvreté s'est aggravée en cette seconde moitié du XVIIe siècle, Laurence Croque ?
La pauvreté ne s'est peut-être pas aggravée pendant cette période du règne de Louis XIV autant qu'à partir des années 1680-1700, parce que dans ces années 1670, on est entre la guerre de Hollande et la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Donc, Colbert est aux manettes, à la tête du contrôle général des finances, et il y a une gestion des finances publiques qui est apparemment quand même, on va dire, raisonnable. Alors qu'ensuite, en période de guerre quasiment continue, la pression fiscale augmente de façon vertigineuse. On enferme une partie des contribuables qui n'ont pas pu payer leur impôt. Les pauvres sont rudement traités.
Mais il y a tout de même régulièrement de mauvaises récoltes à cette période, des moissons insuffisantes du fait de gel de printemps, d'orages au début de l'été, d'infestations de parasites. C'est ce qu'explique notamment l'historien Yves-Marie Bercé, avec les prix des blés qui, dans ces cas-là, montent extrêmement vite. Ce sont souvent les mauvaises récoltes qui entraînent des catastrophes, Laurence Croc.
C'est vrai. Alors, il y a eu une grave crise au moment de l'avènement de Louis XIV en 1661. Il y en aura une autre dramatique. Il y en aura deux autres aussi dramatiques. 1692-94, 2 millions de morts. 1709, 1 million de morts. C'est vrai que cette question des mauvaises récoltes et du renchérissement du coût des blés, c'est fondamental pour les gens du peuple qui ne peuvent plus acheter le pain qui est la base de leur nourriture. Mais encore une fois, pendant la période des années 1770, c'est pas la période où il y a les crises les plus graves. Donc, je pense que la portée du discours de Bossuet comme des caractères, elle est beaucoup plus générale que conjoncturelle.
Il y a tout de même le maréchal Vauban, serviteur zélé de Louis XIV, qui va dresser un tableau alarmant de l'état du royaume, qui va en quelque sorte prendre conscience de la misère de la paysannerie, Laurence Croc.
Oui, mais justement, c'est pendant la guerre de succession d'Espagne qu'il met en avant son projet de réforme fiscale avec la dîme royale. Il fait partie de ces penseurs de l'économie comme Fénelon aussi, qui mettent en avant la nécessité d'inventer de nouvelles ressources fiscales sans toujours écraser le peuple de nouveaux impôts, de faire payer les riches, pour le dire autrement. Sachant que chez Fénelon, il y a en plus une réflexion plus globale sur la nécessité de demander le consentement de la population à l'impôt en convoquant des assemblées notables. Parce que cette question du consentement à l'impôt qui sera remise sur le tapis au moment de la Révolution, elle est quand même toujours chez les penseurs économiques sous-jacentes.
La pauvreté des paysans qui est dénoncée par La Bruyère, écoutez.
L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé.
Une lecture par Antoine Vitesse dans Les caractères de La Bruyère, le film d'Éric Rohmer de 1965. On voit qu'il y a chez La Bruyère une vraie sensibilité à cette misère paysanne, Béatrice Guillon.
Oui, alors c'est le texte qu'on cite toujours, à juste titre. Sensibilité à la misère en général, pas forcément à la misère paysanne, parce que les caractères, c'est quand même plutôt en milieu urbain qui est décrit. Les campagnes sont assez peu présentes dans les caractères. Donc c'est vrai qu'on a raison de citer ce texte, mais il y a assez peu de descriptions de la vie paysanne dans les caractères. C'est peut-être un petit peu paradoxal dans la mesure où, mais c'est sans doute aussi parce que la critique l'emporte, c'est vraiment la société de son temps, celle qu'il connaît, que décrit La Bruyère, parce qu'à l'idéal, à la vie urbaine, il oppose un idéal agraire, comme un âge d'or qui serait un idéal agraire. Il évoque dans le discours sur Théophraste, il fait l'éloge d'Athènes, qu'il oppose. Il oppose la simplicité, la frugalité des Athéniens la vie de ses contemporains. Et cette frugalité, c'est vraiment un idéal agraire. Leur richesse, c'était leur troupeau. Et de leur troupeau, ils tiraient leur subsistance, ils tiraient leurs vêtements. C'est très proche de l'idéal que développe Fénelon dans le Télémaque. Une simplicité agraire, opposée à l'essor de l'économie urbaine, marchande, qui s'installe dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Oui, on va évoquer cette ascension de la bourgeoisie, bien sûr, mais c'est un texte très fort, hein, on l'a entendu. Et à travers ces mots, est-ce que selon vous, Béatrice Guillon, la Bruyère cherche à provoquer un choc, une prise de conscience chez ses contemporains autour de justement cet écart entre l'extrême richesse des uns et la misère des autres?
Sans doute. Et puis, il y a aussi cette attire très, très forte. Hein. On croit que ce sont des animaux. Hein, et puis, on les voit courbés sur la terre, on les prend pour des animaux, puis ils se relèvent. On voit que ce sont des hommes et ils parlent même, ils sont dotés de paroles. Là, je crois que c'est l'idéal chrétien de la Bruyère hein, qui rappelle la fondamentale égalité de nature entre tous les hommes. Il y a une nécessité des rangs sociaux. On va sans doute y revenir, mais il y a une fondamentale égalité de nature entre les hommes, et cette description, c'est aussi une dénonciation du mépris dans lequel sont tenus les paysans. Hein, ceux qui les prennent pour des animaux, alors que leur travail fournit la subsistance pour l'ensemble de la population, c'est eux qui sont dans l'erreur.
On va continuer à explorer les caractères, l'œuvre d'une vie, hein, celle de la Bruyère, avec vous Béatrice Guillon et Laurence Croque juste après ça.
Si je pouvais tordre mon caractère, le plaquer au sol, le faire taire, y'a dans la mécanique comme une colle à un mastic qui taquine mon sang-froid, qui le pique. Et c'est de l'eau qui boue, qui ne s'évapore pas, moi ça me serre le cou, comme serre le bois, tu vois. Ça, c'est tout le temps, mais pas souvent, mais sans arrêt que je ressens ça. C'est tout le temps, et c'est tout le temps, c'est sans arrêt que je ressasse ça. C'est tout le temps, mais pas souvent, mais sans arrêt. Si tu pouvais mon caractère, te laisser conduire, plage arrière. Là, c'est systématique, sur moi un pouvoir hypnotique. Tout ce que tu dis, chaque réplique. Et ça me gâche tout, t'es plus fort que moi. Tu prends tout l'espace et tu prends ma place. Tout le temps, c'est sans arrêt que je ressens ça. C'est tout le temps, mais pas souvent, mais sans arrêt que je ressens ça. C'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est sans arrêt que je ressens ça. C'est tout le temps, mais pas souvent. Sans arrêt, que je ressasse ça, que ça se fâche en moi, que je ressasse ça, et ça me gâche tout, t'es plus fort que moi, tu prends tout l'espace et tu prends ma place.
Caractère de Gaël Faure sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, la Bruyère, une affaire de morale, c'est notre sujet. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur les penseurs de l'économie du XVIIe siècle. La professeure de littérature Béatrice Guillon et l'historienne Laurence Croque sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jean-Guilain Mèche.
C'est tout le temps, c'est sans arrêt que je ressasse ça. C'est tout le temps, non pas souvent, mais sans arrêt.
Dans ses caractères, Jean de la Bruyère se livre à une virulente critique du luxe. Alors sur quelle conviction, Béatrice Guillon, le moraliste, fonde-t-il cette condamnation ?
Sur une condamnation religieuse du superflu, sur une conviction religieuse et politique d'une société d'ordre, où chacun doit rester à sa place. Alors, vous avez ouvert l'émission en rappelant que la Bruyère était lui-même un transfuge de classe. Hein. Il y a un luxe qui est légitime et nécessaire, c'est le luxe qui manifeste la condition sociale. Donc, le luxe du roi est légitime. Ce qui est illégitime, c'est le parvenu. C'est l'héritier bourgeois qui hérite du négoce de son père et qui fait une dépense ostentatoire parce qu'il voudrait pourrait ressembler à un aristocrate. Donc c'est une pensée profondément religieuse, assez conservatrice hein, du point de vue politique.
Oui, et ça s'inscrit dans un débat plus global autour du luxe. Béatrice Guyon, il y a des voix qui s'élèvent pour, au contraire, défendre le luxe.
Absolument. Pour défendre, alors un peu moins au XVIIe siècle, c'est surtout au XVIIIe siècle. Hein, on pense évidemment à Voltaire, au mondain, à la défense du mondain. Voltaire qui lui-même s'appuie sur des penseurs économiques comme Melon, mais tout de même, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les modernes revendiquent un état de civilisation avancée. En lien ou non avec le règne de Louis XIV, je dis en lien ou non parce que je pense par exemple à Saint-Évremond qui est exilé à Londres pour des raisons politiques, parce qu'on a découvert dans ses papiers des documents compromettants où il critiquait Mazarin. Mais le Saint-Évremond, les modernes en général trouvent que eh bien le développement de la civilisation permet des commodités, un confort qui est inconnu aux anciens, et ils critiquent très vigoureusement la grossièreté des temps homériques, par exemple. Alors ils critiquent Homère d'un point de vue littéraire, mais aussi d'un point de vue social. Les mœurs homériques, c'est vraiment l'enfance du monde, et l'enfance du monde, c'est pas très beau à voir. Les princesses font leur lessive elles-mêmes dans la rivière, on mange avec les doigts, et à ces premiers temps dont ils fustigent la grossièreté, les modernes opposent un progrès des mœurs, et le progrès des mœurs, c'est aussi le progrès des commodités, du luxe, et il y a une affirmation que ces plaisirs et ces commodités de la vie sont légitimes.
Progrès des mœurs et progrès technique, Laurence Croc, quelles sont ces nouvelles commodités dont bénéficient les contemporains de la Bruyère?
Alors, c'est vrai que ce luxe, hein, ce superflu, ça renvoie à des consommations qui sont en fait nouvelles, qui n'existaient pas souvent au début du XVIIe siècle, a fortiori au XVIe siècle. Ben, on peut prendre l'exemple des carrosses. Au début du XVIIe siècle, à Paris, il n'y a presque pas de carrosses. On dit que le président de tout, président au Parlement, en a un, mais juste pour aller à la campagne. Ça veut dire que concrètement, se déplacent à cheval les nobles qui ont appris l'équitation, les femmes sont en Amazone, les parlementaires, les magistrats au Parlement, la noblesse de robe, elles se déplacent en général à dos de mule ou bien alors à pied. Hein. Et donc, une des grandes révolutions des consommations du XVIIe, c'est le développement des carrosses et le fait que désormais, les aristocrates et même la noblesse moyenne possèdent des carrosses. Or, il faut bien penser que cette consommation engage un nombre de dépenses colossales, parce qu'il faut avoir la place de loger le carrosse, il faut gérer l'approvisionnement en foin, il faut gérer l'approvisionnement en eau, il faut avoir un palefrenier, un cocher. Donc c'est vraiment le carrosse, une consommation qui est un marqueur de différence sociale avec la bourgeoisie, alors qu'au début du XVIIe siècle, il n'y avait pas cette différence.
Et justement, cette critique du luxe, elle s'inscrit dans le contexte de la montée de la classe bourgeoise et du déclin financier de l'aristocratie. Comment est-ce que cela se manifeste concrètement, Laurence Croc?
Alors, cette querelle autour de la question du luxe, elle se manifeste aussi dans les mariages, c'est-à-dire que les enfants, ou surtout les filles hein, de financiers, de bourgeois enrichis, peuvent épouser des fils de l'aristocratie ou de la noblesse hein, grâce à leur belle fortune. Donc, d'un côté, ça favorise la mobilité sociale entre la bourgeoisie et la noblesse. Mais ce qu'on voit pas, c'est que avec ces nouvelles consommations, il y a aussi tout un tas de métiers qui se développent. Les métiers, puisque je parlais des carrosses, hein, les bourreliers, les charrons, qui, quand ils fournissent l'aristocratie, eh bien, vendent souvent à crédit. Et quand on voit les fortunes qu'ils ont dans leurs inventaires après décès, on voit aussi que cette consommation aristocratique ou financière, elle permet l'ascension sociale de la petite bourgeoisie vers la moyenne bourgeoisie et éventuellement, à la génération d'après, vers la petite noblesse. Donc il y a toute une mobilité sociale qui est induite par cette ce luxe et cet enrichissement d'une partie de la société.
Justement, quels sont les principaux secteurs économiques qui permettent la mobilité sociale au XVIIe siècle et qui permettent l'ascension de cette bourgeoisie, Laurence Krock ?
Eh bien, participer au système financier du roi, ça c'est quelque chose qui permet des ascensions fulgurantes. Hein. On peut prendre l'exemple de Charles Gruin, qui est issu d'une famille de marchands de vin. Eh bien, avec ses frères, il participe au financement des guerres sous Louis XIII. Et donc, sous Louis XIV, ce sont des gens qui intègrent la haute noblesse. Donc,
Finance, le commerce également.
Le commerce aussi, qui est souvent... Alors, les guerres de Louis XIV ont permis l'enrichissement, par exemple, des marchands drapiers, qui font des fortunes colossales en fournissant l'armée, en boutons, en habits. On a des négociants hein, de la rue Saint-Honoré, de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, dont les enfants intègrent le Parlement comme magistrat. Hein, donc, la demande financière, hein, elle contribue à l'accélération de la mobilité sociale. Ce qui ne veut pas dire que ces parvenus sont bien perçus. Hein. La Bruyère le dit clairement. Et puis, on voit aussi que les mariages, souvent, qu'ils négocient, sont associés à des pratiques de mépris de l'ancienne catégorie sociale nobiliaire.
Et cette critique des dépenses excessives s'incarne chez La Bruyère dans le personnage de Philémon.
L'or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. Il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes. Le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce ? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la magnificence. Je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui demande quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-d'œuvre. La garde de son épée est un onyx. Il a au doigt un gros diamant qu'il fait briller aux yeux et qui est parfait. Il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi autant pour la vanité que pour l'usage, et il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille. Vous m'inspirez enfin de la curiosité, il faut voir du moins ces choses si précieuses. Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon. Je vous quitte de la personne.
Voilà un deuxième extrait du film d'Éric Rohmer, Les caractères de la Bruyère. Ce que critique ici le moraliste, c'est ce que le sociologue et économiste Thorstein Veblen appellera plus tard la consommation ostentatoire, Béatrice Guillon.
Oui, c'est la consommation ostentatoire. Je vous quitte de la personne. Hein, l'avoir qui prédomine sur l'être. Il y a un autre texte de La Bruyère très frappant où il dénonce l'avarice où il dit de tels gens ne sont ni parents, ni citoyens, ni amis, ni chrétiens, et ce ne sont peut-être même pas des hommes. Donc la négation, ils ne sont pas, mais ils ont de l'argent. Et c'est vraiment la prédominance de l'avoir sur l'être, c'est la prédominance des apparences. Cela renvoie aussi à la cour. On peut penser à la critique de la coquetterie des petits marquis chez Molière, par exemple. Donc c'est une critique et cela renvoie bien sûr aux conditions profondes de la société de cour, hein, société d'apparence. Cette dénonciation des apparences, on la trouve chez La Bruyère, on la trouve chez Molière, on la trouve chez l'ensemble des moralistes, on la trouve chez La Rochefoucauld, on la trouve chez Pascal. Mais actualisation, on commençait en parlant des caractères de Théophraste, l'avaricieux, c'est un type intemporel, mais il y a une actualisation de ce type intemporel avec une dénonciation de ce qu'il y a de plus contemporain dans la société qu'observe La Bruyère.
Oui, il y a de nouvelles habitudes de consommation. Vous avez évoqué les carrosses, Laurence Krock. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'apparence qui prend une nouvelle importance au XVIIe siècle.
Oui, c'est vrai que le vêtement, c'est un des marqueurs de l'identité sociale. Et ce que dénonce La Bruyère, comme les autres moralistes, hein, c'est le fait que les parvenus usurpent des marqueurs vestimentaires qui appartiennent normalement aux nobles, voire à l'aristocratie. Et donc, ce qui provoque, c'est une confusion des rangs, une illisibilité hein, de la société à l'encontre de ce qu'on avait auparavant. Et puis, pour reprendre toujours cette histoire des carrosses, un des marqueurs de cette hubris hein, de cette extravagance des parvenus, c'est le fait de vouloir avoir au moins autant de chevaux à tirer leur carrosse qu'une duchesse. Donc, on a quelques textes assez drôles où évidemment, le parvenu veut avoir un carrosse tiré par 8 chevaux. Je crois qu'il n'y a pas plus. Hein. Peut-être que le roi, c'est 10. Voilà. Alors, et résultat, les aristocrates, je dirais, contre-attaquent en jouant, au contraire, la décrue. Et donc, la duchesse va choisir d'avoir un carrosse tiré uniquement par 2 chevaux pour se distinguer du financier.
Vous m'avez mis les fleurs en bas?
Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut?
Est-ce qu'il faut dire ces choses-là?
Mais oui, vraiment! Oh. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.
Les gens de qualité portent les fleurs en bas?
Oui, monsieur.
Ah, voilà qui est bien.
Si vous voulez, je les mettrai en haut.
Non, non, non. Non
vous
non.
N'avez qu'à dire.
Ça, non, vous dites, vous avez fort bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien?
Oh. Belle demande! Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une rein grave, est le plus grand génie du monde, et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps.
Non mais la perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Oh,
tout est bien!
Ah, donnez-le.
Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené ces gens-là pour vous habiller en cadence, et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Allons, vous autres, mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité.
Le bourgeois gentilhomme de Molière, mis en scène en 1980 par Jean-Laurent Cochet avec Jean Le Poulain et Marcel Tristany pour France Culture. Ces bourgeois qui veulent ainsi imiter les grands, voilà l'une des cibles préférées de La Bruyère dans les caractères, Béatrice Guillon.
Oui, et comme le disait Laurent, c'est vraiment ce qui est visé, c'est ce qui est dénoncé, c'est la confusion des ordres. Il y a vraiment une pensée de l'ordre qui est à la fois quasiment, enfin religieuse, je dirais presque métaphysique, et qui se décline au plan économique, au plan social. La confusion des ordres, la confusion des signes visuels et la marque dans des ordres fondamentaux. De ce point de vue, on le disait déjà tout à l'heure, il y a un conservatisme social de La Bruyère.
Oui, mais alors il ne se rend pas compte que finalement c'est son parcours à lui, Béatrice Guillon, c'est-à-dire que on peut dire qu'il renie ses origines bourgeoises.
Non, je n'irai pas jusque-là, d'autant plus que La Bruyère a vécu une vie assez modeste. Et La Bruyère, il a fréquenté la cour qu'autant que ses fonctions dans la maison des Condé le requéraient. Il n'a pas mis 10 chevaux à un carrosse qu'il ne possédait pas.
Non, mais il vit lui-même une ascension sociale et il semble reprocher à ceux qui cherchent finalement à vivre une trajectoire similaire à la sienne de tenter ainsi cette ascension, non?
Je suis pas sûre que l'ascension en elle-même qu'il conteste, c'est je pense spontanément à La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est le parvenu qui prétend vivre comme un aristocrate. Je pense pas que ce soit l'ascension sociale en elle-même, mais c'est les excès, c'est le fils de boutiquier qui voudrait vivre comme un prince du sang.
Et est-ce que on pourrait parler de mépris de classe de la part de La Bruyère, pour utiliser un terme encore très anachronique, Béatrice Guillon?
Je ne sais pas. Je sais pas si c'est un mépris de classe ou si c'est un mépris moral pour ceux qui sortent. Pour ceux qui sortent de leurs conditions, comme ceux qui sortent de leur caractère, hein, il y a un sens de l'ordre et aussi de la nature. Il y a des textes qui condamnent ceux qui sortent de leur caractère, c'est-à-dire qu'il y a un caractère psychologique qui est donné par la nature et je ne sais pas, quelqu'un qui est naturellement timide et qui voudrait jouer à l'extraverti pour prendre pour faire encore un anachronisme, il sort de son caractère et je pense qu'il y a une critique de ceux qui sortent de leurs conditions sociales qui est similaire à celle de ceux qui sortent de leur caractère.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Croc? Qu'est-ce qu'il faut penser du fait que La Bruyère embrasse ainsi les valeurs de l'aristocratie et se montre aussi virulent à l'égard des bourgeois?
Moi, je pense, je connais pas finement l'histoire de La Bruyère, mais comme je le disais tout à l'heure, a priori, avec l'acquisition de cet office de trésorier de France, il se plaçait dans une dynamique d'ascension sociale. Parce que un trésorier de France a un rang social supérieur à un contrôleur des rentes, qui était l'office de son père. Mais en ne l'exerçant pas et en y renonçant finalement assez rapidement, je pense qu'il a renoncé à cette perspective d'ascension sociale. Et donc, il peut avoir plus facilement une posture de critique de ceux qui cherchent à échapper à leur origine. Mais à mes yeux, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Quand on regarde la pièce de Georges Dandin, écrite par Molière et sur laquelle Jean-Roger Chartier avait fait un article magnifique, on voit bien qu'en fait, Molière, il adopte complètement le point de vue de l'aristocratie. Et pour moi, La Bruyère aussi, c'est-à-dire c'est un point de vue d'en haut. Et donc, d'en haut, évidemment, quand on n'a pas envie les fondements de la société soient contestés, on critique la mobilité.
Les caractères, c'est tout simplement un petit manuel de morale aristocratique, Béatrice Guillon ?
Non. Je dirais pas cela. Alors, d'une part, je rappellerai qu'il y a tout de même une critique virulente de l'aristocratie, notamment dans le chapitre des grands. Il y a une critique de leur orgueil, il y a une critique de leur vanité, il y a une critique de leur méchanceté. Les grands rient des misères, les grands rient des disgrâces physiques. Donc, il y a un portrait dans le chapitre des grands et dans le chapitre de la cour, il y a un portrait vraiment très féroce des travers de l'aristocratie et l'orgueil, la conception religieuse relativement pessimiste de la Bruyère. Je dis relativement, c'est par rapport à Pascal, c'est un peu moins pessimiste. Il y a une plus grande confiance dans la raison humaine. Mais enfin, une conception quand même relativement pessimiste. Donc l'orgueil, il infecte tous les hommes, mais il est particulièrement virulent chez les grands. Il y a une vive dénonciation. Et le second bémol que j'apporterai, petit précis de morale aristocratique, il y a ces grands textes du XVIe siècle, et notamment Le courtisan de Castiglione. Alors le courtisan, c'est pas du tout péjoratif. Hein, dans le titre de Castiglione, le courtisan, c'est l'homme de cour, c'est l'homme qui vit à la cour. Alors oui, le courtisan, c'est un petit précis de morale aristocratique, c'est quelles sont les qualités nécessaires au courtisan, donc à l'homme de cour et à la femme de cour, quelles sont les qualités nécessaires pour que la vie à la cour soit harmonieuse et agréable. Et cet idéal, il va être repris aussi en France. Alors, plutôt après les guerres de religion, il y a une réflexion autour de l'honnêteté, de la civilité mondaine dans les années 30. Et La Bruyère, lui, vient après une critique religieuse très forte de ces valeurs de morale aristocratique, de civilité, critique faite par Pascal, par exemple, par Pierre Nicole, dont vous parliez hier. Et La Bruyère, lui, va mettre l'accent... Alors, le syntagme « honnête homme », il est ambigu, parce que l'honnête homme, on entend l'honnêteté au sens moral du terme, mais honnête homme va finir par devenir synonyme de mondain. Et La Bruyère va jouer sur les mots en dénonçant le fait que l'honnête homme n'est pas un homme de bien. Et La Bruyère va insister dans plusieurs textes sur l'écart entre l'honnête homme, c'est-à-dire le mondain accompli, et l'homme de bien. Et il va finir par dire dans un texte assez savoureux que l'honnête homme, c'est celui qui ne tue pas et qui ne vole pas sur les grands chemins. Alors évidemment, vous conviendrez avec moi que c'est une définition assez minimaliste de la moralité, alors que l'homme de bien, c'est l'homme vertueux. Donc il y a à cet égard chez La Bruyère une méfiance dont il hérite, hein, une critique encore une fois d'ordre religieux d'un idéal mondain.
Cette distinction, on la retrouve chez Molière dans Le Misanthrope. L'honnête homme, ce serait Philinte, et l'homme de bien ou l'homme honnête, ce serait Alceste, Béatrice Guillon.
Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a dans le Misanthrope, Alceste, il est ridicule. Et on sait que Molière jouait Alceste, et on sait que Molière se réservait les personnages comiques. Il y a Alceste, il fait rire de lui. Je dirais plutôt que le Misanthrope, il montre les apories de la civilité. Alceste, c'est celui qui refuse le compromis, mais juste après la scène d'ouverture où il a reproché son hypocrisie à Philinte, qui à son sens a salué avec trop de chaleur un inconnu, Oronte vient lui demander de se prononcer sur son sonnet. Et Alceste trouve le sonnet épouvantable, mais dans un premier temps, il n'ose pas le dire à Oronte. Donc lui-même, en dépit de ses grands principes d'honnêteté, il est assujetti, il se plie à ses pratiques. Donc il me semble que le misanthrope, c'est plutôt une mise en tension, une mise en lumière des apories, parce que Alceste, il finit par partir, il vit tout seul, et vivre tout seul, c'est pas un idéal pour Molière. Donc il me semble que c'est plutôt une illustration, le misanthrope, des difficultés, des limites de la civilité mondaine.
Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordures, éprises du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu, capables d'une seule volupté qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier dix, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décret des monnaies, enfoncés et comme abîmés dans les contrats, les titres et les parchemins. De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes. Ils ont de l'argent.
Une lecture des caractères par Denis Podalydès. Béatrice Guillon nous disait que selon La Bruyère, l'orgueil était particulièrement virulent chez les grands. En revanche, l'avarice pour le moraliste se situe du côté du bourgeois car il est celui qui accumule les richesses, Laurence Croc.
Oui, le bourgeois, dans sa version marchand ou financière, c'est celui qui cherche à accumuler du capital économique pour pouvoir acquérir les consommations qui vont lui permettre de s'identifier à la noblesse, voire à l'aristocratie, et argent qui va aussi lui permettre de négocier donc de beaux mariages. Alors en général, le beau mariage sera une mésalliance dans un sens hypergamique pour la jeune femme, c'est-à-dire que c'est la jeune bourgeoise qui va, grâce à sa dot, pouvoir épouser un noble désargenté. Mais parfois, de façon très exceptionnelle, hein, comme l'illustre la pièce de Molière, Georges Dandin, c'est le bourgeois lui-même, ou le financier, qui va épouser une femme de la noblesse. J'avais travaillé sur Charles Grun qui épouse une femme de la noblesse normande. Et en général, ces mésalliances où madame se marie en dessous d'elle donnent des couples où on sent que l'époux est quand même maltraité d'une certaine façon parce qu'il n'a pas le haut rang et l'honneur que pourrait attendre une femme en se mariant. Mais ces mariages hein, entre gens issus de milieux différents grâce à l'argent sont d'autant plus intéressants que quand on regarde le fonctionnement de la société allemande de l'autre côté de la frontière, on ne trouve pas du tout la même chose. Parce qu'en France, c'est possible parce que c'est l'homme qui donne la noblesse. Donc, une fille de la bourgeoisie peut épouser un noble, les enfants seront nobles. En Allemagne, il faut 4 quartiers de noblesse pour être noble. Donc, les deux parents sont nobles, les 4 grands-parents aussi. Voilà.
La Bruyère critique l'usage qui est fait de l'argent par la bourgeoisie. Quel est le bon usage de l'argent, selon lui, Laurence Croc?
Eh bien, le bon usage, selon lui, je pense que c'est ce qu'on appelle la libéralité dans la noblesse, c'est-à-dire la capacité de donner, de redistribuer cet argent par l'esprit de charité, entre autres. Il y a Norbert Elias rapporte une anecdote dont je ne sais pas quelle est tout à fait l'origine. Un duc qui donne à son fils une bourse et un mois après, le fils lui rapporte la bourse pleine et le père jette la bourse par la fenêtre en dénonçant cette incapacité de son fils à redistribuer cet argent qu'il lui avait donné.
Béatrice Guillon.
Oui, il y a aussi un souci qu'on pourrait peut-être dire très bourgeois maintenir et de la fortune familiale. Il faut penser à ceux qui viendront après nous, il faut penser aux héritiers. Il y a une condamnation de ceux qui dilapident l'héritage et la Bruyère encourage à maintenir la fortune dont on a hérité pour pouvoir la transmettre à son tour.
France Culture.
Ah, à propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt.
Une révérence pour saluer une marquise.
Chut, une marquise qui s'appelle Dorimel.
Entendez-vous l'écho?
Donnez-moi la main.
Non, vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien.
Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il vous faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux.
Faites un peu pour voir.
Tiphaine de Roquigny.
On l'a dit, la bruyère tourne en dérision la classe bourgeoise, mais il se moque aussi de la petite et de la moyenne noblesse. Que leur reproche-t-il, Laurence Croque ?
Cette petite et moyenne noblesse, quand elle est d'origine récente, en fait, elle n'a pas... elle a acquis le statut judiciaire de noble, puisque depuis les années 1660, la monarchie contrôle l'accès à la noblesse. Mais elle n'a pas acquis, on va dire, l'habitus noble. Et dans cet habitus, il y a la capacité à savoir comment se comporter, en particulier à la cour. Et c'est dans les pièces de théâtre un des éléments qui est souvent le plus stigmatisé chez ces nouveaux nobles qui doivent apprendre des comportements qui sont présentés comme innés chez les anciens nobles. Bon, innéité qui va de pair quand même en général avec des cours d'escrime, des cours d'équitation, des cours de danse. Mais voilà, le jeu du théâtre, c'est de souligner ces différences de posture corporelle qui sont si stigmatisantes.
Et vous avez évoqué pendant la préparation de cette émission ce traumatisme pour la noblesse française qui doit désormais apporter des preuves de noblesse. Alors peut-être racontez-nous ce qui s'est passé, Laurence Croque, et est-ce que cela a changé pour les nobles français ?
Alors, en gros, jusqu'aux années 1650, quand on devient noble, on le devient par l'adoption d'un mode de vie qui est celui de la noblesse. On peut prendre l'exemple de la famille de Montaigne, hein, qui est issue d'une famille de marchands de Bordeaux. Bon, le grand-père achète la seigneurie de Montaigne. Hein, le père combat dans les armées d'Henri II. Et Montaigne, voilà, troisième génération, début de troisième génération, est au service d'Henri III. Il essaie de contribuer à la pacification de la Guyenne. Voilà. Et donc, quand il fallait faire la preuve qu'on était noble, on procédait par des témoignages. C'est-à-dire qu'on demandait au plus vieux des villages où était établie la seigneurie la plus importante de dire ce qu'ils savaient. Et en général, ces plus vieux rappelaient ce que leur père et leurs grands-parents avaient dit. C'est ce qui fait qu'on avait une profondeur historique qui remontait rarement au-delà de 3-4 générations. À partir des années 1760, un des marqueurs de la centralisation, du renforcement de l'absolutisme, c'est la prise de contrôle par la monarchie de la procédure de reconnaissance de la noblesse qui exige désormais la production de papiers et qui exige que les gens produisent des papiers comme quoi ils sont nobles depuis 1560, c'est-à-dire depuis le début des guerres de religion, sachant que les guerres de religion ont été, comme toutes les guerres civiles, une période d'intense mobilité sociale. Et donc, pour beaucoup de familles qui sont vraiment nobles, c'est un choc parce que les papiers sont conservés dans les châteaux de façon très aléatoire, hein, souvent mangés par les rats. Donc, une partie des familles de vraies et anciennes noblesse se retrouvent démunies parce qu'elles n'ont pas les papiers. Et puis, il faut penser aussi au désarroi de toutes ces familles issues de l'élite urbaine intégrée dans la noblesse de robe qui n'a pas les papiers et pour cause. Alors, voilà, il y a des pratiques qui peuvent prêter à sourire. Hein. Dans la famille de Thoux, on envoie quelqu'un marteler l'épitaphe qu'il y a sur la tombe de l'ancêtre à Orléans parce que l'ancêtre a été marchand pelletier. Alors, c'est l'élite urbaine, hein, mais... Voilà, Pelletier, c'est pas un noble. Et puis, il y a tout un tas de productions de faux papiers sur lesquels Robert Desimons a très bien travaillé. C'est-à-dire que pour prouver sa noblesse, il faut donner des papiers. Bon, alors on donne pas les originaux. Hein. Les notaires n'acceptent pas qu'on sorte les originaux des contrats de mariage. Mais on va demander des copies. Et puis, on va payer un peu le notaire, histoire qu'il transforme le noble homme Jean Dumas en Jean Dumas écuyer. Parce que écuyer, c'est un titre de noblesse qui est... permet d'être reconnu comme noble, alors que noble homme, c'est un titre uniquement porté par les nobles qui ont une noblesse personnelle non transmissible.
Béatrice Guillon.
Oui, je voudrais rappeler qu'il y a une virulente critique de la vanité nobiliaire dans les caractères. Et la Bruyère dénonce ceux qui s'enorgueillissent de l'ancienneté du lignage, mais qui ne sont pas à la hauteur des ancêtres. Et il y a une dénonciation morale hein, de à la fois de l'orgueil nobiliaire et du laisser-aller moral de ceux qui se contentent de s'en remettre à leur lignage. On peut ajouter aussi qu'il y a un petit clin d'œil de la Bruyère qui se nomme dans le texte d'une édition de la 6e édition, où il se nomme comme l'auteur et de façon ironique, il prétend, il se donne une particule et il prétend être issu d'un Geoffroy de la Bruyère qui remonterait aux croisades. Et c'est aussi une façon de moquer la prétention nobiliaire.
Un tout dernier mot, peut-être, Laurence Croque, sur ce que l'œuvre de la Bruyère nous dit du passage d'un monde à un autre, un siècle avant la Révolution française.
C'est un témoignage, je pense, assez intéressant du trouble que provoque dans la société cette mobilité sociale accrue qui brouille les repères visuels, économiques, hein, puisque on a des financiers qui ont parfois des fortunes au décès plus importantes que des nobles de vieille noblesse. Ça s'aggravera à la fin du règne de Louis XIV. Bon, après, c'est vrai que quand on met tout ça dans la perspective de la Révolution française avec la montée de la bourgeoisie, on voit bien en fait que cette montée de la bourgeoisie, elle ne date pas hein, du XVIIIe siècle, mais que c'est un mouvement, je dirais aussi, de renouvellement constant hein, de la noblesse, phénomène qu'on n'a pas en Allemagne, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des moments d'accélération. C'est vrai que le règne de Louis XIV est une période où le renouvellement est particulièrement intense, mais parce que les institutions aussi sont encore ouvertes. On peut être fils de négociant et magistrat au Parlement sous Louis XIV. C'est plus possible tellement à partir des années 1730.
Un tout dernier mot, Béatrice Guillon.
Je dirais que, si vous me passez l'expression familière, tout le monde en prend pour son grade dans les caractères. Les courtisans sont ridiculisés, la ville, hein, les bourgeois sont ridiculisés. Ceux qui s'en sortent le mieux, peut-être finalement, c'est les miséreux, parce que là, il n'y a pas de satire, il y a simplement une compassion chrétienne.
Allez, le mot de la fin est pour la Bruyère.
Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac, et dans les douces fumées d'un vin d'Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable. Quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion, qu'on puisse quelque part mourir de faim.
Speak me into existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence, play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true, I dare not try to blame you. I only did more than I could do, I only bit more than I could chew. This next place, I won't take a fall, this next place, I'll be above it all, and follow better the protocol. Nice town.
C'est la fin de cette émission. Un immense merci, Laurence Croque et Béatrice Guillon, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je rappelle Béatrice Guillon, professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Strasbourg. Laurence Croque, professeure d'histoire moderne à l'Université Paris-Nanterre. Merci beaucoup à Pascal Doumange et Yann Aubert de France Bleu Alsace qui ont assuré ce duplex.
Turn a blind eye to redundance, convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along, they'll love me more when I get it wrong. Nice town.
La découverte musicale du jour, c'est Nice Town, le nouveau titre des Anglais de Métronomie avec le groupe Pan Amsterdam. Demain, nous nous plongerons dans l'œuvre de Bret Easton Ellis, L'économie selon l'auteur d'American Psycho. Ce sera avec Alexia Blin et Pierre Guglielmina. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous les cons.